rendez-vous.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir?
Oui.
Rendez-vous?
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au nouveau rendez-vous, J-1 avant la fin de la saison, mais on reste tous
on
très énervés.
On n'arrête même plus dire de titre.
Non, je ne sais même plus comment ça se passe. Pour ces 2 heures qu'on va passer ensemble, 22h minuit, en direct du studio 621, c'est en plein cœur de la maison de la radio. Et ça, vous le savez, double avant-première ce soir avec nos deux invités cinéma. Robin Campillo, grand prix du Festival de Cannes avec 120 battements par minute. Un film qui a conquis la Croisette, le public, le jury, les critiques. Plébiscite pour un cinéma action qui retrouve les mobilisations des militants d'ACT UP dans les années 90, des questions de vie, de mort, d'amour, de combat pour ne pas crever. Robin Campillo, bonsoir. Le film sort le 23 août, c'est ça?
Oui, c'est
merci
ça,
d'être
bonsoir.
Venu
merci
si tôt. À vos côtés, Océane Rosemary, en un seul mot, militante aussi. On se souvient de la lesbienne invisible sur scène. Océane Rosemary passe au cinéma. Premier film, Embrasse-moi, exposition maximum pour cette comédie, première comédie romantique entre femmes. Ce sera le 5 juillet prochain. Océane Rosemary, bonsoir à vous.
Bonsoir.
22h30, l'instant V de Vali, la musique toujours live.
Exactement, je suis très heureuse de présenter Derya Yildirim et groupe Chimchak. La rencontre entre l'Asie mineure et l'Occident. Il joue 3 titres ce soir.
C'est parfait.
Oh, je suis ravie, c'est dans quelques instants.
23h le journal, 23h15, on va revenir avec le NRV la suite. Et ce soir, on pédale, et oui, on prend de l'avance pour le Tour de France édition 2017. Ça commence samedi, Benoît Lagan.
Oui, on part à bicyclette. J'avais envie de faire.
Bon, bref, c'est d'imiter mon temps en plus.
Oui, c'est ça.
Vivement que cette émission s'arrête. Demain, c'est
oui,
fini.
On parle du Tour de France à J-2 du départ, donc de cette 104e édition. Et dans le peloton ce soir, 4 invités. Christian Laborde, écrivain, conteur du Tour, plusieurs fois récompensé pour ses livres sur la Grande Boucle. Benoît Emmermann, le plus littéraire de tous les journalistes sportifs. Alexandre Pedro, le rédacteur en chef de Pédale, la revue branchée du rayon. Et puis Jean-François Rhin, qui fera son grand retour à France Inter ce soir, puisqu'il a été la grande voix du Tour de France pendant des années sur notre antenne.
Eh bien parfait, le NRV, ça peut commencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et sans plus attendre, on commence par la musique live. Donc, instant Facebook Live avec vous, Vali, et la chanteuse dont vous allez nous prononcer le nom. Elle a passé la journée à le répéter. Vous
ça,
êtes
c'est
formidable.
Vrai. Alors, ne me faites pas un mauvais sort, parce que là, c'est foutu pour moi. Vous savez bien, en plus. Pour l'avant-dernière émission de la saison, je suis ravie de présenter Derya Yildirim et groupe Chimchak. Pour 3 titres inattendus sur leur EP, il est question de reprise de standards anatoliens et turcs qui croisent la pop, le groove, le jazz et même le reggae. Et ça casse le baraque, vous allez voir. C'est plus qu'un groupe international, c'est une formation outernationale. Les membres sont originaires de 5 pays, la Turquie, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. Derya joue du saz, vous allez voir là, une sorte de luth avec une longue manche fine qui donne le la à ses racines turques. Et le groupe Chimchak complète avec guitare, basse, batterie et synthé. Le premier titre s'appelle Nem Kaldi. Que me restait-il? Un classique du répertoire turc. Derya Yildirim et groupe Chimchak dans le nouveau Chimchak. Ah, vous avez dit. Je recommence. Derya Yildirim et groupe Chimchak dans le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Super.
We'll be right back.
s'appelle Nem Kaldi de Deria Yildirim et groupe Chimchek. Il revient pour deux autres titres dans une vingtaine de minutes.
NRV, le nouveau rendez-vous.
Super, double avant-première ce soir avec vous, Océane Rosemary, pour votre premier film Embrasse-moi. Et vous, Robin Campillou, vous êtes un des héros du dernier Festival de Cannes avec ce film. Et oui, un héros. 120 battements par minute, plébiscite critique, émotion dans la salle, grand prix. Le film sort le 23 août prochain. Le NRV sera encore en vacances. Donc on voulait vraiment finir la saison avec vous. On se refait Cannes, hein. Soirée de clôture. Pedro Almodovar se lève et déclare.
Le grand prix est attribué à 120 beats per minute by Robin Campillo.
C'est à dire que je n'ai pas fait ce film seul, j'ai fait ce film avec toute une série d'acteurs, de techniciens. On n'est jamais aussi intelligent, aussi beau, aussi fort qu'à plusieurs. Et ça a été un moment d'émotion très très fort, ce festival, pour moi.
Ben Campillo, j'imagine que vous vous souvenez encore. Il y a pas si longtemps.
Non, mais j'avais la chance d'avoir un peu oublié.
Non, mais c'est
très gentil que vous me rappeliez comme ça. J'essaye de pas me voir, de pas m'entendre.
C'est
etc.
vrai.
Ouais, bah oui. Non.
Pour quelle raison?
Bah parce que c'est trop dur. Quoi. Enfin, ouais. Moi, je suis pas. Je veux dire, j'aurais pas eu de prix. J'aurais été content de rester dans la salle, de pas avoir monté sur scène pour parler. Je déteste ça, et c'est toujours le truc. Où, là, sur ce festival, moi, je voulais absolument que le film soit sélectionné quelque part. Mais par contre, à chaque fois, j'oublie qu'après, il faut s'exposer un tout petit peu, et j'oublie cette part, et cette part-là, elle est quand même assez. Pour moi, c'est assez dur. Quoi.
À quel moment vous avez su que le film était sélectionné?
À partir du moment où Frémo me l'a dit.
Bizarrement. Très bizarrement.
Très bizarre.
J'ai pris ça pour
ça
un bon
chelou.
Signe.
Oui, mais je pense aussi que vous avez été fin sur ce coup-là.
Voilà.
Le film était vraiment fini ou il y avait encore des choses à faire? Quelquefois, c'est le cas. Hein.
Il n'était pas fini de monter quand D'accord. il me l'a dit. Enfin, je ne sais pas si je peux. Il n'était pas fini de mixer.
Il nous cache quelque chose. D'accord. Non, oh, ouais. Ça va, mixage, je ne sais pas non plus.
Bah,
oui, quand même, mais.
C'est toujours un peu inquiétant de présenter un film comme ça sans être sûr, quand même, de la cohérence sonore. Alors, évidemment, oui. Après, c'est vrai que la projection à Cannes, c'est pas le meilleur son dans une salle. Comme c'est une très grande salle, il n'y a pas de possibilité d'avoir un son parfait. Hein, ça n'est pas possible. Et c'est vrai que voilà, j'ai recoupé un tout petit peu. Je crois qu'on a coupé quelques minutes.
Quelques minutes.
Oui, mais c'était pas Frémo qui le demandait. Hein, c'est que moi, j'avais pas fini. C'est moi qui monte en plus mes films.
Ouais, passer le monteur. Hein,
voilà. Et continue. Après, c'est vrai que voilà, dans la salle. C'était bien, et qu'après on a repris le mixage, quoi. Donc c'était pas complètement fini.
Vous avez échangé ensuite avec Pedro Almodovar? Il vous a parlé justement de ce qu'il avait ressenti regardant le film?
On n'a pas beaucoup, je lui ai parlé, hein,
ouais.
Mais on n'a pas. Moi je suis allé lui dire merci pour le Grand Prix,
ouais, bien sûr.
Et j'ai senti beaucoup de pudeur. Où je sentais que c'était compliqué pour lui de s'exprimer. J'ai pas essayé d'interpréter ça, etc. C'était chaleureux, mais il y avait une espèce de retenue assez forte. Donc j'ai pas insisté. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pas.
Océane Rosemary, vous avez regardé la cérémonie?
Oui, alors j'ai pas regardé la cérémonie parce que je sais plus ce que je faisais, mais un autre truc. Mais j'ai vu, j'étais à Cannes, je suis passée à Cannes, vraiment quasiment juste pour voir le film de Robin Campillo.
Donc vous l'avez vu là-bas alors?
Je l'ai vu là-bas. Et moi j'avais fait une story Instagram très claire pour qu'il ait la palme d'or. Une story Instagram adressée à Pedro Almodovar. Donc je pensais quand même que, étant qui je suis, il allait évidemment m'écouter et voilà, donner la palme d'or. Donc j'étais un petit peu chafouin quand j'ai vu que le prix n'était pas à la hauteur de ce que j'avais quand même exigé. Non, vraiment, moi, c'était en tout cas ma palme d'or. Et pourtant, il y a beaucoup de films que j'ai aimés. Mais je dois dire que vraiment, j'ai adoré ce film,
bah,
qui
merci.
Est un film nécessaire, magnifique. C'est un très, très grand film. Enfin, je suis désolée, je fais pas ça d'habitude, parce que d'habitude, j'aime moins les films des autres. Mais là, je dois dire,
bah, oui.
Je suis très heureuse quand j'ai appris qu'on était ensemble. Je suis fait, waouh, la classe.
Alors, vous allez présenter votre premier film, ça sera la semaine prochaine.
Oui.
Tous les deux, vous êtes en avant-première ici, mais aussi en avant-première, puisque vous faites la tournée des avant-premières en région. Vous étiez où, là?
dernière fois au Seine Rosemary?
J'étais à Toulouse avant-hier. Ouais.
Comment ça s'est passé?
Ça s'est très bien passé, c'était super.
Donc pour cette première comédie romantique, on va dire.
En fait, c'est presque plus fort d'être en Provence, en région, qu'à Paris, parce que le film, tout d'un coup, il résonne vraiment dans ce qu'il a de nécessaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'aime bien, moi, après, rencontrer les gens, donc on fait des Q&A, comme on dit, des débats. Et souvent, alors, il y a beaucoup de filles, bien sûr, beaucoup de lesbiennes qui viennent, et elles commencent par un merci, mais un merci, comme on m'a jamais dit merci, quoi. C'est vraiment comme un grand soulagement, quoi, tout d'un coup, d'être représentée. Il y a des phrases marrantes qui sortent. Là, à Toulouse, il y a une fille qui est venue me voir qui m'a dit moi, dans ma famille, c'est moins cool que dans le film. Donc, mes parents, quand La vie d'Adèle est sortie, j'ai prié pour qu'ils y aillent pas. Et là, franchement, dès le 5, je les emmène le soir même. Je veux trop qu'ils le voient et tout. Et tu vois, ça, c'est génial, super, en fait, quand on te dit ça, parce que tu te rends compte que, bon, voilà, le film peut avoir une importance dans la vie de beaucoup de gens. Parce que tout d'un coup, c'est joyeux. Il n'y a plus de questions autour de l'hémosexualité. C'est juste une histoire d'amour. Les filles sont épanouies. Et puis, moi, je voulais vraiment faire ça, quoi. Un film, entre guillemets, qui normalise l'homosexualité, où ce n'est plus une histoire de coming out, quoi. Sortir de ce fameux pitch du coming out de toutes les comédies romantiques.
Vous, Robin Campillou, vous revenez de Saint-Étienne.
Oui.
Vous avez dormi 3 heures. Mmh. Ça veut dire que le débat a été très long après le film?
Oui, très long. Après, le film passait un peu tard. Vu que le film est un peu long, c'est sûr, il passait à 21h. Mais moi, j'ai fait des avant-premières dans des villes où Océane Rosemary est passée avant moi. Et donc, tout le monde me disait, c'était super quand elle est passée. Je me disais, ça met la barre très, très haut. Et donc, comme je sentais que moi, c'était moins, la comédie était moins forte.
Moins forte, c'est moins présente.
Il y avait quand même, même si je pense qu'il y a un peu d'humour dans le film, malgré tout. Mais c'est vrai que on a fait un débat très particulier, c'était avec Didier Lestrade, avec le fondateur d'ACT UP. C'est le seul débat en fait qu'on a fait vraiment ensemble.
Avec lui, d'accord. Ouais.
Avec lui, et donc le fait qu'on se parle, parce que pareil, lui et moi, on est assez pudiques et on ne s'est pas beaucoup parlé depuis. Même il était à la projection à Cannes et il a aimé le film, mais c'est la première fois qu'on se reparlait de toute cette période vraiment un peu. Donc il y avait une charge très très forte, quoi, d'évoquer tout ça, quoi. Et ça a pris du temps, et surtout quand on est sorti, les gens voulaient continuer à parler, notamment les jeunes gays qui étaient là aussi, qui étaient un peu impressionnés, parce que évidemment, les jeunes hommes gays sont pas en dehors de l'épidémie de SIDA. Ça n'est pas fini. On est toujours dans ce
même si on est dans un autre pan de l'histoire.
Absolument, et dans une autre phase de l'épidémie.
Mais là,
je pense que ça les a réinscrits dans une généalogie de l'épidémie, quoi. Donc ils avaient encore d'autres questions à nous poser.
J'imagine.
Et donc on a bu et voilà.
3 heures de pour dormir.
C'est pour ça que je n'arrive pas à dire les noms correctement.
Nous on fait la même chose sans avoir bu, donc c'est vraiment bienvenue au club.
Away, Away, un titre double pour les jumelles d'IBI, ça tombe bien. L'album devrait sortir en septembre.
Le nouveau rendez-vous.
Il m'a dit un rendez-vous.
Laurent Goumard.
Et c'est où le rendez-vous?
Sur France Inter.
Bonjour tout le monde, nous sommes ACT UP Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer.
Qui vous a donné l'autorisation?
Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation.
Regardez pas ça.
Il faut savoir que le risque existe bel et bien.
Oh, je vous demande de quitter cette salle.
120 battements par minute, grand prix du Festival de Cannes. Le film sort le 23 août. Très attendu au vu de tout ce qui s'est passé, Robin Campillo. C'est un retour dans les années 90 au sein du mouvement d'ACT UP. Les militants multiplient les actions pour dénoncer la faiblesse des politiques de prévention du gouvernement, l'indifférence même des politiques, le cynisme des laboratoires. Le film suit les militants dans leurs actions, leurs réunions où la parole circule totalement libérée. Et puis le film va progressivement se recentrer sur deux garçons. Nathan, un nouveau venu dans le groupe, séronégatif, beau gosse.
Très
beau gosse. Et c'est important la dimension érotique, même dans le militantisme, surtout dans le militantisme. Et puis Sean, séropositif, activiste, radical, car le temps presse, la mort n'attend pas, bande-annonce.
Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine, car elle tue depuis plus de 10 ans, dans l'indifférence générale. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative.
J'espère pas choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas fidée.
À ACT UP Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Rejoignez-nous!
Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie?
Bah, moi, dans la vie, je suis séropo, c'est tout. Voilà quoi, ça se résume.
Robin Campillo, je sais que vous avez vous-même rejoint ACT UP dans les années 90, en 92, plus de 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui motive une nouvelle fois le passage à l'acte? Parce que ce film, c'est véritablement ça.
Ce qui le motive, c'est que je... En fait, moi, je depuis que je suis enfant, je veux faire du cinéma. Donc, en 83, je rentre à l'IDEC, l'école de cinéma, et c'est au tout début de l'épidémie. Et en fait, je m'aperçois, je suis assez traumatisé par ce début d'épidémie, je suis très, très angoissé. Et je sais que je m'aperçois que les cinéastes que j'aimais, les gens de la Nouvelle Vague, les réalisateurs de la Nouvelle Vague, d'un seul coup me paraissent un peu inopérants par rapport à ça. Pour raconter cette histoire-là, j'avais l'impression d'un seul coup que je ne savais plus à quoi comment j'allais faire du cinéma à partir de ça. Et il m'a fallu un temps infini, il a fallu un passage par ACT UP genre 10 ans plus tard pour commencer à comprendre ce que c'était de prendre possession de cette épidémie, de faire de la politique ensemble, etc. Et c'est encore plus tard que j'ai pensé que si je voulais faire un film sur le sida, c'était pas sur l'épidémie, mais sur ce moment où des gens qui avaient subi l'épidémie pendant 10 ans prenaient la main politiquement et décidaient de produire ensemble de discours et de renverser les représentations qu'on avait de l'épidémie. Quoi.
Ça veut dire, Robin Campillo, que vous êtes arrivé tard, enfin retardé au cinéma par rapport aux études que vous aviez faites, traumatisé par l'épidémie du sida, que c'est lié en tout cas, que votre arrivée au cinéma sur le tard est lié.
Traumatisé, je trouve ça un mot un peu fort, mais en tout cas dans l'incapacité.
Arrêté, un peu empêché.
Dans l'incapacité de savoir qu'est-ce que j'allais produire comme image, qu'est-ce que j'allais. Voilà, j'étais un peu dans l'interrogation. Il y avait même un truc où je trouvais un petit peu vain de vouloir faire des films, j'avais envie de faire autre chose, quoi. Donc en fait, je me suis trouvé un boulot un peu alimentaire, j'étais monteur au JT sur France 3. Et en même temps, voilà, j'ai commencé à rentrer à ACT UP et à militer. Et voilà.
Et donc, il a fallu attendre Laurent Cantet, par exemple, pour vous sortir de là et aller du côté du cinéma pour être monteur, travailler à ses côtés.
Ouais. Ah. Bah, c'est-à-dire que, en fait, quand on était à l'IDEC, puisque j'ai fait l'IDEC avec lui en 83, c'était le groupe d'essai, Cantet Campillo. Donc, on était dans le même groupe à cause d'un truc alphabétique. Pas par affinité, hein, évidemment.
bien sûr que non.
Et c'est vrai que, en fait, quand on était à l'IDEC, on travaillait sur les films les uns des autres, en fait, en tant que Perchman, en tant que. On avait cette chance de pouvoir être technicien sur les films les uns des autres. Et en fait, on a un peu reproduit ça. Et lui a essayé de me tirer hors de l'eau, la tête hors de l'eau, pour me mettre un pied dans le cinéma. Et donc, j'ai recommencé au montage, parce que je m'étais formé au montage sur Avid. Et après, on a travaillé sur le scénario. Et puis, voilà.
Quand aujourd'hui vous réalisez donc ce film sur cette période-là, sur l'action des militants, sur l'épidémie du sida, qu'est-ce qu'il fallait rappeler aujourd'hui? Est-ce qu'il fallait non seulement rappeler, mais aussi dire des choses qui n'avaient pas été dites à l'époque? Je pense par exemple à l'euthanasie de certains malades du sida.
Ouais.
C'est quelque chose dont on ne parlait pas et dont on a très peu parlé, je crois.
Ouais. Oui, on en a très peu parlé, mais vous savez, j'ai pas fait le film en pensant à des messages particuliers.
Ah non, mais pas du tout.
Mais j'ai vraiment pensé le film en me disant, effectivement, il va forcément se passer des choses si je raconte les coulisses de tout ça, de comment on fabriquait le discours, de nos amours, de ces histoires de désir. Comme vous le disiez, moi, Act Up, je voyais surtout des mecs que je trouvais très beaux dans la rue avec des t-shirts Act Up. Il y avait ça aussi.
Mais bien sûr, ça fait
partie de ce désir-là, et que voilà, ça. Un groupe, voilà, et j'avais envie de raconter l'espèce de richesse, parce que cette épidémie qui touchait les gays un peu aveuglément faisait que se retrouvaient Act Up des gens qui venaient de milieux très différents, avec des bagages culturels complètement différents, et que ces gens-là étaient obligés de discuter ensemble, et que avant d'affronter les laboratoires, avant d'affronter les pouvoirs publics, on s'affrontait ensemble. Comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les forums virtuels. C'était un peu in the flesh, en chair et en os, quoi. Donc, tout ça était très incarné. Et qu'il y avait, moi, la première réunion à laquelle j'assiste d'Act Up, je suis étonné par le fait que c'est assez jubilatoire, par exemple. Et que les gens, il y a justement cette femme qui est une mère d'hémophile qui dit, il faut qu'on fasse une action très vite parce que ma baignoire est remplie de sang. Et le truc devient de faux sang. Et devient vertigineux quand on sait que son fils est hémophile, ouais, qu'il est séropo et qu'il a fabriqué lui-même du faux sang pour jeter à la figure de responsable de laboratoire.
Pendant les actions qui sont menées.
Exactement. Donc, il y avait déjà un truc tellement vertigineux, et de penser que cette histoire de, enfin, nos vies avaient pas été vraiment expliquées, que c'était une lutte quand même très minoritaire, mais qui avait à l'époque beaucoup de, quand même, qui a beaucoup marqué, j'ai l'impression, dans les médias, etc., et dans l'esprit des gens. Et donc, j'avais envie de raconter ça. Tous ces petits faits minoritaires de cette époque.
Alors, ce qui est particulièrement vertigineux, justement, c'est la façon dont vous réalisez, parce qu'on parle aussi de cinéma et pas simplement de sujet, la façon dont vous réalisez les réunions. C'est-à-dire, donc, on est dans un amphithéâtre, il y a plein de monde, les prises de parole, plutôt d'ailleurs les unes après les autres, hein, on ne se coupe pas véritablement la parole, c'est très très policé tout ça, mais pour autant, je me suis demandé combien il y avait de caméras pour pouvoir filmer tous ces gens-là. Est-ce qu'il y avait des répétitions? Est-ce que c'était au cordeau? Est-ce qu'il y avait des parts d'improvisation? Comment vous avez réussi à retrouver une énergie pour les réunions dans cet amphithéâtre?
Alors moi, d'abord, ce que j'essayais de retrouver quand même, c'était une musique des voix, quoi, de l'époque, parce que sinon on serait tombé dans l'Assemblée nationale avec des gens qui disent ouais. Rome en est témoin, une indignation comme ça forfaitaire. Et moi, ce que je voulais, c'était retrouver le parler PD de l'époque, quoi. C'est très important, cette musique-là. C'est pas pareil. Je veux dire, ça dit quelque chose, c'est une esthétique. Et que là, j'ai trouvé les acteurs pour le faire. Et après, on a fait effectivement des répétitions où j'ai changé. Je me suis aperçu aussi que c'était au risque de la jeune génération, et que donc, il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas dans le texte.
Bien entendu.
Du tout. Et donc, il a fallu que j'acclimate des choses, et que je fasse attention aussi que le spectateur ne perde pas le rapport avec le film. Et donc tout ça, ça s'est fait, on a fait des répétitions comme ça, j'ai modifié, et sur le tournage, il y avait, en fait, dans les réunions, il y avait trois caméras.
Trois caméras, d'accord.
Et en fait, avec ma directrice de la photo, Jeanne Lapoirie, on a cette méthode maintenant, c'est qu'on tourne très vite. Une demi-heure, rien n'est prêt, mais on fait quand même des prises, comme on est en numérique, ouais. C'est pas comme en 35, ça coûte pas très cher, et donc on fait des prises qui durent toute la durée de la scène, à trois caméras. Et là, on bouge les caméras de place, on change même les fringues des gens, on modifie les places, etc., tout ça. Et peu à peu, on crée des scènes de plus en plus fluides, comme ça. Et au bout d'un moment, les acteurs oublient les caméras, parce qu'ils ne savent plus s'ils sont filmés, ils n'ont plus le problème de se dire « je suis en gros plan, pas en gros plan », qui pour moi, est un peu accablant, je dois dire. Mais, et voilà, il y a un moment où ils perdent contrôle de la scène, et ils sont bien obligés de répondre à la personne qui les prend à partie du fond de la salle, et il se crée quelque chose de particulier.
Ouais, et c'est bizarre, parce que cette perte de contrôle qu'il y a de la part des acteurs, c'est aussi presque la perte de contrôle qu'il y a de votre part, parce que je me souviens, le premier film, Les Revenants, il y a vraiment un souci du cadre, presque un souci plasticien du cadre. Aujourd'hui, le cadre est toujours présent, mais on voit que vous pouvez jouer avec, et en tout cas, ne pas chercher véritablement à le contrôler. Alors, je sais que le sida hante votre cinéma, et ce, depuis votre premier film, Les Revenants, en 2004, qui était déjà lié à la découverte du sida par voie de presse, c'était un actif de Paris Match en 83. Et bien, c'est ce qui a troublé nos réalisateurs, qui ont mis en perspective trois extraits de trois de vos films. Ce sont les trois. On ouvre avec Eastern Boys, puis Les Revenants, et enfin 120 battements par minute.
Ça fait mal?
Il faut faire soigner ça, faut voir un dentiste.
Ok. C'est un papier.
Oui, mais c'est pas un problème. Regarde, tu vois la rue là? Il y a un centre médical.
Et c'est gratuit?
Oui. Et pas de papier.
Et tu fais un test aussi?
Sida, AIDS.
I'm not sick.
Non, mais juste, voilà, comme ça.
I'm not sick.
Je sais, par sécurité, juste.
La recherche clinique, si elle n'a pu encore répondre à toutes ces questions, a permis en revanche de mettre en lumière l'efficacité relative d'un produit, l'axadroline. Sur les personnes revenues, ce psychorégulateur fonctionne un peu comme une camisole chimique, leur permettant de mieux dormir la nuit et surtout de moins circuler dans la journée. À cette fin, nous avons pu accélérer l'autorisation de mise sur le marché de l'axadroline, qui sera donc commercialisé très bientôt sous le nom de l'Itanol.
Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler sa nouvelle molécule. Et densifier la fédération, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous.
Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements.
À Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous.
Le défi est relevé. Robin Campillo, le montage vous convient ?
Oui, il est très bien. Ouais.
Ça marche.
Très bien.
Ce qui traverse votre cinéma.
Oui, j'avais un peu oublié les revenants, je dois dire, mais.
Vous avez oublié les revenants.
Ouais.
Vous souvenez pas de la cérémonie
locale. Hein, ouais, bah,
non. Mais je perds un peu la mémoire. Non, mais les revenants, justement, sur ce que vous dites, c'est quand même quand j'entends là, je sens la prise de contrôle sur l'acteur de manière, c'est extrêmement brutal.
Qui a beaucoup changé.
Oui, mais c'est voilà, heureusement. Mais le Eastern Boys, ça raconte justement cette perte de contrôle là. C'est-à-dire que je suis un peu Olivier Rabourdin qui décide que les gens rentrent chez lui,
ils vont foutre le bordel.
Et ça lui fait peur et en même temps, c'est comme une promesse, quoi.
Oui, parce qu'en même temps, ce n'est pas non plus catastrophique. Il ne se passe rien de plus que ça.
Non, ouais. Mais il y a même des formes de désir qui traversent cette scène. Hein, mais c'est toujours un peu inquiétant et c'est normal. Quoi.
Une dernière question. Pourquoi fallait-il que les acteurs qui jouent dans votre film soient gays et ouvertement gays?
C'était pas une obligation. Ça s'est fait assez naturellement, hein, en fait. Hein, le fait d'être gay, moi j'ai l'impression, en tout cas souvent, est un espèce de secret de polichinelle en réalité. Enfin, je veux dire, je me rendais bien compte que il y a des gens que j'ai cherchés sur Facebook, etc. Il y avait pas tellement de mystère. Mais bon, je pense pas que si, enfin, il y a quand même un ou deux acteurs hétéros. Enfin, j'espère.
Mais lesquels? Mais
c'est tout le jeu.
Le directeur du laboratoire. Mais non, j'ai pas vraiment demandé aux gens de décliner leur orientation sexuelle, mais quand même il y a un truc qui se. Mais c'est surtout aussi que comme.
Mais moi je trouve que c'est important en fait.
Non
pour
mais
le
bien
film.
Sûr. Ouais, non mais c'est important. Mais je veux dire c'était pas un truc. Moi j'ai tenté plein de choses. J'ai vu aussi des acteurs connus, etc. Je savais que c'était pas évident pour moi, mais j'ai cherché des acteurs au théâtre, donc j'ai un peu ouvert, mais c'est vrai que je me doutais qu'on allait retomber sur des gens qui sont ouvertement gays et qui sont, parce que c'est compliqué de défendre aussi ce film après en étant dans le placard, enfin moi je pense que c'est quand même très très compliqué quoi, et c'est vrai que ce que je disais, oui il y avait tellement de choses à interpréter dans le film que moi j'allais pas commencer à essayer d'imaginer, de me dire comment tu vas faire le gay? Enfin, c'est complètement. C'était un peu rédhibitoire ce truc-là. Moi, j'avais envie d'avoir de la liberté. Et là-dessus, on choisit des acteurs parce qu'ils sont quand même ce qu'on veut pour les personnages, même si c'est un peu à côté de ce qu'on avait imaginé. Mais on peut pas travailler, on peut pas inventer de toutes pièces les personnages à partir des acteurs. Il faut que les acteurs quand même aillent vers les personnages d'une manière ou d'une autre, quoi.
Et c'est ce qu'on vérifie dans 120 battements par minute. Le film sort le 23 août prochain. Merci Robin Campillo.
Merci.
Bien sûr, vous restez avec nous.
Merci.
On va parler aussi cinéma avec Océane Rosemary dans quelques instants. Mais tout de suite, la musique et elle est live. Valy, l'instant V, l'instant Facebook Live.
Et ça continue, Deria Yildirim et groupe Chimtek, et c'est la rencontre entre la tradition et la pop, et c'est une véritable coup de foudre, car Chimtek, le nom du groupe, veut dire foudre, tout comme le nom de Deria Yildirim. Mais l'un évoque le sang et l'autre évoque la foudre elle-même. Deria a 23 ans, elle vit à Berlin, elle est multi-instrumentiste, elle a rencontré les membres du groupe grâce à un DJ anthropologiste, directeur du New Hamburg Festival. Il a eu la bonne idée de réunir ses musiciens le temps du festival. L'expérience leur a plu et malgré le fait que les membres habitent entre Londres, Berlin et Saint-Étienne, ils ont trouvé le temps d'enregistrer un EP et aussi faire quelques concerts. Ils reprennent les standards turcs et comme veut la tradition, ces morceaux vivent dans les réinterprétations. On est bien dans le présent sans oublier le passé. Le deuxième titre s'appelle « Dom Dom Kur Shununu ».
Je crois.
Vraiment un exercice de prononciation aujourd'hui. C'est ça.
C'est
on y
à
va.
Vous sur France Inter dans le nouveau rendez-vous. Dans le nouveau rendez-vous sur France Inter, c'est bien sûr Deria au saz et au chant. Clavier, c'est Graham Mouchnik. À la guitare, Antonin Voyant. À la basse, Voyant. À la basse, Andrea Pirot. Et à la batterie, Greta Icott. C'est la petite anglaise du groupe. Alors, Deria, vous prenez le micro. Can you take the microphone? Vous avez 23 ans. Depuis quand jouez-vous le saz et pourquoi avez-vous choisi cet instrument? How long have you been playing the saz and why did you choose this instrument?
I really don't know. I grew
je
up
ne
with
sais
this
pas,
instrument.
J'ai grandi avec.
Yeah.
Alors, je vais poser une question à Antonin au hasard. C'est un peu, si j'ai bien compris, c'est quelque chose de tout à fait normal de moderniser cette musique traditionnelle. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez, je sais que c'est vous et les trois autres qui sont présents, qui se sont occupés de la production, difficile, naturel, comment ça s'est passé?
Ces musiques, c'est des chansons traditionnelles faites par les achiks turcs, qui étaient des poètes. Et en fait, il y a eu beaucoup de versions au cours des années qui ont été faites par plusieurs groupes. Donc c'est assez naturel de faire des versions plus pop de ces chansons traditionnelles. Et puis après, nous, on avait déjà, j'imagine, un son et des
vous êtes dans l'orchestre Montplaisant.
Voilà, ouais. Et puis le label Catapult Records. Et du coup, en travaillant avec Deria, on a imaginé des arrangements avec elle et avec l'arrivée aussi de Greta à la batterie.
Ok. Le troisième titre s'appelle Gurbé. Et si je ne me trompe pas, ça parle de mal de maison, très vite.
Oui, le mal du pays.
Le mal du pays.
Ce n'est pas tout à fait le mal du pays. C'est une interprétation. C'est un mot turc qui signifie le mal du pays du point de vue de celui qui est parti du pays, mais qui voit comme ça peut tourner mal dans le pays d'origine.
D'accord. Alors, on va écouter ça tout de suite derrière Yildirim et groupe Şimşek dans le nouveau rendez-vous sur France Inter. C'est à vous.
Changement de micro.
İçerim yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar
Merci.
Derrière Yves Blim et Group Chemtech, leur EP Nem Kaldi est disponible sur Catapult Records. Ils sont en concert vendredi soir à Montreuil. Prise de sang, Alexandre Chenet, Gilles Gaillard et Serge Viguier. Thank you so much for coming. Merci beaucoup.
Une programmation de Marion Guilbeault. Merci.
Un new rendez-vous?
Oui.
Non. The new rendez-vous.
Embrasse-moi. Eh bien, il faudra attendre mercredi prochain pour le faire. C'est votre premier film Océane Rosemary. Océane oui. Rosemary, en un seul mot, comme c'est encore marqué sur l'affiche. Ça vient d'où cette coquetterie typographique?
C'est pas une coquetterie. En fait, Océane Rosemary, pour moi, c'est ce qu'on appelle un persona en théâtre de façon un tout petit peu prétentieuse. C'est-à-dire que c'est pas un personnage. C'est pas moi non plus. C'est, on va dire, moi avec des curseurs beaucoup plus haut. Donc, moi en mieux ou moi en pire ou les deux, je ne sais pas. Et c'est un persona que j'ai créé pour mon premier spectacle La Lesbienne Invisible. Parce que, évidemment, c'était inspiré de ma vie. Et en même temps, c'était pas non plus moi qui étais sur scène, vraiment. Et après, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire voyager ce personnage. Je trouvais ça chouette de le faire exister dans un spectacle sur scène et puis après de l'emmener ailleurs, dans un film, dans des chroniques.
Océane à la mer, Océane Marie, voilà, c'est un peu, à la campagne. C'est un peu votre Martine à vous. Alors, le film est clairement une comédie romantique. Océane Rosemary, vous êtes Océane Rosemary dans le film. Super ostéopathe, sportif, bonne copine, très entourée, surtout de vos ex. Et là, alors que vous vous faites une nouvelle fois larguer par votre une psychopathe perverse, narcissique, parano, obsessionnel Fantine, joué par la géniale Laure Calamy, oui. Vous tombez sur Cécile, c'est joué par Alice Paul, qui pourrait bien devenir la femme de votre vie. Correction, c'est la femme de votre vie. Problème, elle ne le sait pas et ce qu'elle voit de vous ne va pas faciliter les choses. Comédie romantique, film d'éducation sentimentale et conquête amoureuse, bande annonce.
J'ai un truc à vous annoncer, j'ai rencontré la femme de ma vie.
Je pense à cette pauvre Fantine. Et toi, tu la remplaces en moins de deux par un objet transitionnel.
Ah non, c'est pas un objet transitionnel, c'est Cécile, ok? Elle s'appelle Cécile.
Gladys, Magali, Samira. Je sais tous les mots, tu sais. Isole, Nadège, oh, Nadège.
En tout cas, je sais pas vous, mais moi, j'ai aucune envie de recommencer une histoire.
Alors, tu la baises? Cécile, Fantine, Fantine, Cécile. Les ex, je ressors jamais avec elle.
C'est-à-dire, t'as l'air d'en avoir tellement que ce serait compliqué de choisir.
Nymphomane, je n'y vois aucune provocation, ma chérie.
On s'est un peu embrassé, mais ça compte pas. Hein.
T'inquiète pas, ça me regarde pas. De toute façon, je pars dans 3 mois, j'ai plein de trucs à faire.
On l'avait jamais fait celle-là encore.
Bah oui, bah là on te l'a fait, tu vois.
Je fais des efforts, j'essaie de changer. Bien fait pour ma gueule,
tiens. T'as juste été un peu maladroite.
C'est hyper beau ce que t'as fait pour elle. Il y a quelques mois, t'aurais été incapable de faire un truc pareil.
Fais-toi confiance, ma chérie. En tout cas, moi, je te fais confiance.
Une comédie romantique lesbienne, ça vous manquait? Vous en rêviez?
Bah vraiment, j'en ai manqué. Ouais, quand j'étais ado, je pense que j'aurais beaucoup aimé qu'un film comme ça existe. Et Cyprien Vial, mon co-réalisateur, je pense que c'était pareil, parce qu'il y avait des films. Nous, on a grandi dans les années 80-90, et il y avait vraiment des films. Alors les lesbiennes, c'était vraiment particulier. C'était toujours soit des serial killers, c'est vrai, ou qui découpent leur meilleure amie, qui la mettent dans le congélo, soit des nanas c'est au vrai. Bout du rouleau qui se suicident. Donc si elles peuvent mourir avant 3/4 de film, ça arrange.
Pensez
tout le monde.
À quoi, par exemple?
Bah High Art. Il y a toute une collection quand même, une petite collection.
Et la série Killer, c'était Jeune fille partage appartement,
ouais,
un truc comme ça.
Mais même avant, chez Hitchcock et tout, il y a souvent des personnages maléfiques. On entend presque le scénariste et on se dit, attends, elle est méchante, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Dans Rebecca.
Encore plus peur. Ah, si on la faisait Gwyn, ben ouais, bonne idée, elle va faire trop peur. Et donc, c'est vrai que quand toi, tu grandis avec ces représentations-là, c'est difficile, quoi.
Mais
et
j'avais un héros positif?
Pas en comédie romantique. Et nous, c'est une forme qu'on aime bien. On est complètement, on assume notre côté complètement fleur bleue, premier degré. On aime les films comme Coup de foudre à Notting Hill. Cyprien, il adore La Boum. Bon, moi, je suis plus fan des frères Farrelly. L'amour extra large, c'est vraiment un film culte qui a été une vraie référence pour moi. Ou le jeu de Jim Carrey dans Food Irene. Mais je veux dire, même les comédies romantiques les plus classiques, Quatre mariages à l'enterrement, tout ça, c'est des films qui ont été importants pour nous. Et je pense que si seulement Léo avait pu être homo, on aurait été encore plus contents. Pas tous, mais qu'il y en ait au moins un. Et du coup, voilà, le film.
Dans Quatre mariages à l'enterrement, il y en a un, non?
Oui, ouais, il y en a un couple.
Voilà. Ouais, mais il meurt
souvent. Allez, on aime bien quand les gars, ils meurent quand même. C'est plus simple. Et je parle pas évidemment du film de Robin qui meurt pour d'autres raisons et qui est un film nécessaire. Mais en tout cas, voilà, donc ce film nous avait manqué et on s'est dit, on a envie de faire ce film pour les jeunes, pour les moins jeunes qui justement ont envie juste d'avoir un film où c'est une histoire d'amour entre deux filles. Il y a son meilleur copain gay qui va se marier et puis on n'en parle pas, quoi. C'est pas un sujet parce qu'ensuite il y a eu toute une flopée de films de comédie romantique, pas en France. En France, il n'y en a vraiment pas eu, mais qui venaient d'autres pays avec un pitch unique, mais vraiment un pitch unique qui est une hétéro qui rencontre rencontre une lesbienne et qui comprend pas ce qui lui arrive. Si possible, le jour de son mariage, parce que ça rajoute des enjeux. Bon, quand toi t'as fait ton coming out depuis 20 ans, t'es genre, boring. Genre, est-ce que vraiment je vais devoir regarder ce film ou elle va se demander si elle le dit à sa mère? Alors, en général, si le film est écrit par un mec hétéro, à la fin, elle retourne avec son mec parce que c'était juste qu'elle a un peu dérapé. Et s'il est fait par une lesbienne, elle part vivre dans une roulotte avec un petit chien qui renaît à la fin. Enfin bon, il y a plein de films comme ça assez, vraiment, qui ne parlent que de l'homosexualité.
À quel moment vous avez fait votre coming out, puisque vous en parlez? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre comportement, votre façon de vous habiller, votre façon de vous coiffer, par exemple, au sein de Rosemary?
Non, en fait, moi, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que je pense que j'avais donné
des pistes.
Moi-même, j'avais des pistes. J'étais pas complètement sûre non plus. Et puis, petit à petit, ça s'est installé. Mais il n'y a pas eu vraiment de déclaration, quoi. Il n'y a pas eu de grande déclaration.
Et de votre côté, Romain Campillo?
Quand est-ce que j'ai su que j'étais lesbienne?
Non. est-ce qu'il a fallu passer par le coming out? On n'est pas obligé de passer par là. On peut très bien le vivre sans avoir.
Non, oui, si c'est passé. Le sida a un peu précipité les choses, en fait. Mais après, il y a des gens à qui je ne l'ai pas dit, même de ma famille très proche. Mais parce que je ne les voyais plus, parce que je n'ai plus besoin de leur dire. Mais bon, pour moi, ça a été assez simple, quoi. Je veux dire, en fait, j'avais l'impression que ça se voyait, que je n'avais pas à le faire, quoi. Donc, j'ai dû le faire, quand même.
Et du côté des comédies, vous êtes client? Il y a des comédies que vous regardez plus côté anglo-saxon ou français?
Oui, les frères Farrelly.
Ouais, c'est ça, vous avez ça en commun.
Oui, et puis, il y en a pas mal, hein. C'est vraiment, il se trouve que là, moi, j'ai essayé de faire un peu d'humour dans ce film, mais c'était assez compliqué. Mais
il y en a.
Et d'ailleurs, l'humour passe beaucoup par les personnages de lesbiennes dans le film, hein, je trouve. C'était aussi, puisqu'il y avait beaucoup de filles à act up aussi. Je suis très, très preneur. Hein, j'aimerais bien en faire une comédie. Mais c'est très dur à réussir.
C'est particulièrement réussi. Alors, il y a un lien avec votre premier One Woman Show sur scène au sein de Rosemary, la lesbienne invisible. C'était en 2009. On est en 2017, presque 10 ans. Est-ce qu'il a fallu changer ou adapter le discours? Qu'est-ce que vous disiez en 2009, en fait, quand vous prenez la parole sur scène pour la première fois?
Alors, peu de choses ont changé, puisque le projet du film est arrivé très tôt. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer à Lesbienne Invisible en 2009, je l'ai joué jusqu'en 2014, et en 2010, déjà, je voulais faire ce film.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire que ça prend du temps.
Hein, pour monter?
Ouais, pour
7 ans pour monter le film.
Pour l'écrire, pour trouver d'abord les producteurs, ensuite le co-scénariste, enfin, tout ça prend du temps. Et puis c'est vrai qu'après, quand je pense qu'on a signé avec les producteurs de Nolita en 2013, et puis ensuite, Cyprien Vial a fait son premier film, Bébé Tigre, moi j'ai fait mon second spectacle, Chaton Violent. Donc il y a eu des pauses, je vais pas vous dire qu'on a travaillé tout le temps, mais bon, le temps de financer le film, de trouver le casting, tout ça est très long. Donc le projet, quelque part, il était déjà là. Ensuite, bien sûr, les versions de scénario ont beaucoup évolué au cours des années, et je dirais que ce qui a changé, c'est plutôt ma manière de me présenter. C'est-à-dire que cette Océane Rosemary qu'on a rencontré sur scène avec des cheveux longs, une robe, du rouge
exactement,
à lèvres,
ouais.
Très féminine, en revendiquant qu'on pouvait être et lesbienne et féminine, que c'était pas impossible. Après, ça a fait son chemin parce que je me suis rendu compte que, en fait, quand j'ai fait Lesbienne Invisible, j'étais pas militante, j'étais idéaliste, je voulais changer les choses, je voulais casser les préjugés sur les lesbiennes.
Et surtout, vous vouliez aussi prendre position par rapport à ce qui se passait à cette époque-là aussi.
Oui, mais c'était avant tout le débat.
Oui, avant le mariage pour tous.
Oui, c'était avant le mariage pour tous. Et du coup, je trouvais que c'était important de dire ça. Et puis après, petit à petit, il s'est passé un truc bizarre, c'est qu'à force que le spectacle marche, que je sois invitée sur des plateaux télé, tout ça, je devenais un tout petit peu un genre de porte-parole des lesbiennes. Et puis tout d'un coup, c'était un peu comme si on me disait « Non, mais toi, ça va ». Et comme si je devenais un peu la lesbienne
des cheveux longs,
parce que toi ça va, t'es mignonne, t'as les cheveux, entre guillemets, t'es hétéronormée, donc ça va. Et alors je dis, ah non, alors déjà je suis pas d'accord, moi je viens au nom de toutes les lesbiennes, et les butch qui ont une coupe en brosse et du poil aux pattes sont aussi légitimes et belles que moi ou que n'importe quelle fille aux cheveux longs. Et à partir de là, je me dis, tiens, c'est marrant, je crois que j'ai été victime, comme beaucoup d'homos, de ce qu'on appelle une homophobie intégrée, une lesbophobie intégrée, c'est-à-dire que pour être sûre que mon message passe, j'en ai rajouté dans le côté féminin. Et après, au bout de plusieurs années, je dis, mais en fait, non, moi, quand j'étais ado, je m'étais fait une coupe super courte, je mettais des baguilles, j'aime bien marcher comme un bonhomme, et en fait, disons que je me suis reconnectée, finalement, à mon côté un peu plus viril, et dans le film, ça me tenait très à cœur de montrer un autre corps féminin, un autre corps de cinéma, très musclé, j'ai fait beaucoup de muscu, avec du gras aussi, avec du gras qui tremble quand je fais ma choré, et voilà, et dire, non, être femme, et en ce sens, c'est aussi un film féministe, puisque il y a plein de corps féminins, et
notamment tous les ex qui sont présents à l'écran, on voit bien
tous les styles sont
présents. Juste peut-être une dernière question d'actualité. On a appris hier que le comité d'éthique proposait d'ouvrir l'accès à la PMA, donc la procréation médicalement assistée, aux femmes homosexuelles et aux femmes célibataires. Ça vous inspire quoi, vous qui avez été déçu et vous sentiez trahi par le gouvernement de François Hollande, qui avait renoncé sur cette question? Océane Rosemary.
Alors, je pense qu'il y a encore quand même beaucoup de chemin, puisque à la fois le comité d'éthique dit que ça va coûter très cher à la Sécu. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont réussi à n'auditionner qu'une seule lesbienne, et une lesbienne qui n'est pas tellement pour la PMA. Donc, à la fois, ils n'ont pas été foutus d'en trouver plus d'une, et à la fois, les lesbiennes vont envahir le monde et faire un trou dans la Sécu. Il y a comme un petit paradoxe, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, ils disent qu'ils sont pour, mais à la fois, ils font une liste assez longue de tous les problèmes que ça pourrait poser, qui, à mon avis, sont des faux problèmes. Donc, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge et qu'il va encore falloir se battre.
Romain Campillo, peut-être un mot, un dernier mot
sur cette question.
Ouais.
Moi, je trouve déjà assez étrange qu'on demande l'avis à un comité d'éthique quand on fait de la politique.
Absolument.
On fait de la politique. Il y a quelqu'un avait demandé à Lévi-Strauss qu'est-ce qu'il pensait du débat sur le mariage ou sur ce que c'était le Pax. Et Lévi-Strauss a répondu sur l'anthropologie. On ne devait pas demander aux anthropologues de faciliter telle ou telle politique. L'anthropologie décrivait des situations, mais elle n'enseignait pas des lois. Et c'est l'anthropologue en tant que citoyen pouvait être pour ou contre le mariage, mais l'anthropologie en aucun cas. Et donc voilà, c'est des décisions politiques, on ne va pas se cacher derrière le comité d'éthique.
C'est les droits, c'est l'égalité, on doit avoir l'égalité et ce n'est pas une question éthique.
Et c'était le mot de la fin. Merci Océane Rosemary, merci Aubin Campillo. Océane Rosemary, embrasse-moi,
oui. C'est
un ordre. Et ça, et ça sera mercredi prochain oui. En salle. Le NRV première partie, c'est fini. Valy, demain, qui sera le dernier invité de l'instant
Alors,
V.
C'est la bassiste Théodora qui nous fait découvrir sa musique électro-obsessionnelle.
Nous, on revient dans 15 minutes avec le Tour de France. Je sais que ça n'a pas commencé, mais nous, on prend de l'avance, on est tellement nuls. Le rendez-vous est pris, à tout de suite.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous ?
Qu'est-ce que vous faites ce soir ?
Ce soir ?
Oui.
Rendez-vous.
Rebonsoir à toutes et à tous, c'est le NRV, la suite, et ce soir, retour sur le Tour. J-2, on prend de l'avance sur le Tour de France 2017, 104e édition, ça commence samedi, et comme chaque année, eh bien, cette aventure sportive va doper les audiences, car il y aura de la sueur, et on l'espère, des larmes. Ça commence en Allemagne, et on va traverser ce qui est rare hein, dans l'histoire du Tour, 5 massifs montagneux. Alors comment se monte un Tour de France, pour quel spectacle et quelle dramaturgie, retour d'expérience, récit d'aventure et prospective ce soir, avec dans le peloton de l'équipe du NRV, 4 coureurs par ordre alphabétique et non par ordre d'arrivée. Benoît Ennermann, vous êtes journaliste et écrivain, vous venez de publier Le Marquis des Stades, un recueil des chroniques sportives de Tristan Bernard. C'est au Castor Astral, bonsoir.
Bonsoir.
Christian Laborde, écrivain et chroniqueur, super primé, médaille du Tour de France pour vos livres sur le sujet. Vous publiez aux éditions du Rocher Robic 447, la biographie romancée du coureur Jean Robic. Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous aussi.
Alexandre Pedro, vous êtes le rédacteur en chef de Pédale, le petit frère à bicyclette de SoFoot. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin avec nous, Jean-François Rhin, vous avez été la grande voix des Tours de France ici à France Inter. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez vu, c'est la Madeleine de Proust. Le NRV, deuxième étape, en selle.
Est-ce que tu vois l'Arc de Triomphe ?
Ben non !
Eh bien, tu t'arrêteras quand tu le verras !
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Eh ben, on n'est pas prêt de le voir, dites donc, Benoît Lagagne.
Alors, vous savez, Laurent, pour moi, le tour à vélo, en fait, je ne connais pas vraiment. Enfin, le seul tour que j'ai connu, c'est le tour de mon village. Mais c'est quand même la classe, parce que moi, mon village, il s'appelle La Française. Du coup, j'ai fait le tour de La Française.
C'est pas vrai.
Ouais,
c'est dingue.
Ah bah oui, c'est pas mal. Donc, le col du Château d'Eau, je connais. La Côte Raide, l'échappée de la Côte Raide aussi. Mais pour ce qui est du Tour de France, j'y connais rien. Du coup, pour cet édito, j'ai téléphoné à un spécialiste, bien connu des auditeurs de France Inter, monsieur Denis Chessou, oui, qui comptabilise, lui, à son compteur, alors c'est ses chiffres, hein, je suis pas allé vérifier, 5500 km en randonnée par an, et il grimperait entre 40 et 50 cols chaque année, m'a-t-il dit. Alors, Denis Chessou, je l'ai chopé ce matin au téléphone parce qu'il était quelque part dans les Pyrénées.
Alors, je suis précisément dans ce qu'on va appeler un hotspot du vélo, du cyclisme et de la randonnée à vélo, parce que je suis dans les Hautes-Pyrénées. Donc, on a pas loin donc le col du Tourmalet. Le Tourmalet, il a été gravi pour la première fois en 1910. C'était quand même des étapes de dingue, si vous voulez, de 326 km. C'était un luchon Bayonne, quoi. On se rend pas compte de ce que c'est, quoi. Mais c'était un truc complètement fou. Et puis, il y a quand même aussi, évidemment, cette histoire du fameux jeune Christophe qui a cassé sa fourche et qui donc a été obligé de la l'a réparé parce qu'il n'avait droit à aucune aide. Là, on était en 1913. On a le Val d'Azun avec le col du Soulor et l'Aubisque, et puis face à moi, donc au Takam que j'ai gravi donc ce matin, qui est une des arrivées du Tour de France. Vous savez, c'est un peu à l'image de la vie. D'abord, ça se fait gratuitement. Vous grimpez un col pour rien. Donc ça, moi déjà, ça me plaît. Puis vous allez quand même chercher aussi alors des endorphines. Mais alors, puisque vous parlez du Tour de France ce soir, il y a un côté un peu petit pousset. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, je suis pas, si vous voulez, en train d'aller chercher les petits cailloux blancs déposés par le petit pousset, mais je dirais les gouttes de sueur, même de champions que je n'ai pas connus, donc à savoir Coppi, à savoir Charlie Gaulle, Robic, cher à notre ami Christian Laborde. Donc, il y a un peu de ça, si vous voulez. Vous allez chercher un petit bout de légende. Alors, vous montez à 9-10 à l'heure, alors qu'à l'époque, je sais pas, il grimpait à 17-18, mais peu importe. Donc, il y a quand même une trace que vous allez effectivement chercher. Mais avant tout, alors c'est toujours très curieux quand vous dites vous vous faites plaisir, mais c'est vrai qu'on se fait plaisir, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher de la souffrance pour de la souffrance, pas du tout. Mais grimper un col, non, c'est une merveille.
Et Denis Chessou, donc tous les matins pendant la durée du tour, du 1er au 23 juillet, il sera à 8h55 dans la matinale de France Inter pour nous faire des chroniques. Son tour en France, alors il m'a dit géographico, historico, vélocipédo, écologico, compatible, lui il va s'entraîner pour le dire. Mais une question donc pour vous, le régional de l'étape, Christian Laborde, le natif des Hautes-Pyrénées que vous êtes, vous confrontez à des cols comme Denis Chessou pour partir sur les traces des grands coureurs du Tour de France. Vous l'avez fait, vous comprenez cette démarche?
Ah oui, je comprends très bien puisque j'ai passé mon enfance sur le bord de la route du Tourmalet, et donc les sommets qu'il évoque là, je les connais bien, je les grimpe à ma vitesse, un peu plus lentement que Denis, qui est quand même un bon coup de pédale. Simplement, je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on ne peut traverser ces lieux sans avoir des souvenirs de la légende elle-même, puisqu'ils sont tellement... le tour est grandiose, notamment dans la montagne. Et en ce qui me concerne, moi, c'est un festival de voyelles. Parce que quand j'étais gamin, dans ma cuisine, il y avait mon père qui parlait. Et j'entends les « i » de Coppi, de Bartali. Il y avait le O de Vieto, de Lorogno. Il y avait le A de Guerra. Et je me souviens même du plus beau et du plus long de tous les A. Le A de Vicente Trueba, la Polga de Torre la Vega. Et quand on entend ça, je veux dire que les histoires qu'il me racontait étaient bien plus belles que les histoires que je pouvais lire dans les livres d'école. Et donc c'était l'hiver ça. Et l'été, on prenait la Dauphine. Et on allait s'installer à 4h du matin dans un lacet du Tourmalet. Mon père choisit ça avec beaucoup d'attention. Il fallait qu'on repère un lacet qui permette de les voir venir de loin et de les suivre ensuite pendant quelques mètres. Il choisissait la pierre pour mettre sous la roue de la voiture parce que le frein à main, on ne sait jamais. Et donc là, on était installés et je voyais passer Bahamontès. Et quand on a vu passer Bahamontès, là, évidemment, on prend une image fabuleuse. Alors, bien entendu, le souvenir reste ensuite quand soi-même on monte le col à une vitesse qui n'est évidemment pas celle de Federico Martin Bahamontès.
Pourquoi il est fameux, ce col du Tourmalet? D'ailleurs, il n'est pas du tout dans l'épreuve de cette année, mais pourquoi il est célèbre, Jean-François Rhin?
Il est célèbre parce que c'est un tour maléfique, hein, je crois.
Oui, c'est un mot gascon. Oui, c'est un tour maudit.
Un tour maudit.
Tour maudit. Et il est maudit d'ailleurs parce que c'est le territoire de l'ours. Il y a beaucoup de légendes autour de l'ours. Et d'ailleurs, les coureurs, lorsqu'ils ont grimpé en 1910 pour la première fois, ont grimpé le col avec la peur d'être dévorés par les ours. Lesquels d'ailleurs n'ont jamais attaqué les coureurs, ils les ont laissés passer depuis 1910. Les ours les regardent et les applaudissent discrètement. Et je me souviens de d'ailleurs cette peur de l'ours est restée longtemps parce que Poulidor me racontait un jour que on mettait du miel dans la poche, vous savez, du sucre rapide quoi. Et il disait aux jeunes coureurs mets du miel, tu en donneras aux ours parce qu'ils étaient censés passer du côté du Tourmalet, toujours le Tourmalet.
Alors cette année c'est assez rare dans l'histoire du Tour. Le Tour va traverser les cinq principaux massifs français. Quel est selon vous le but de la manœuvre, Benoît Emmermann, que l'on mette comme ça autant d'étapes en montagne?
Bon, il y a cette volonté de varier les plaisirs qui existent. Chaque année, on essaie de renouveler ou d'avoir des trouvailles, etc. Mais l'idée principale est toujours ce fameux chemin de ronde d'essayer d'emprunter le, de circonscrire la France presque, de regarder la France d'en haut, d'en bas, etc. Cette volonté, elle existe depuis le début. Si on regarde le dessin du premier Tour de France en 1903, c'est vraiment les principales villes qui sont aux extrémités de la France qui sont réunies les unes entre les autres.
Alors que là, c'est pas trop le cas, mais en revanche, les montagnes sont toujours là.
Les montagnes sont là parce que c'est les montagnes qui font généralement la différence. C'est là où il se passe effectivement le plus de rebondissements et qui permettent de pimenter la course.
Par exemple, un rebondissement qui a pu se passer en montagne, vous pensez à quoi tous ?
Le premier qui vient à l'esprit, c'est le Puy de Dôme. Moi, je me souviens du Puy de Dôme 64, où il y a ce fameux duel entre Anquetil et Poulidor.
Ouais.
Effectivement, on pense que Poulidor va enfin gagner le Tour, et c'est tout de même Anquetil qui est meilleur que lui. Oui.
Et c'est pour et ça d'ailleurs. Thévenet qui bat Merckx. À Pralou, également, la montagne fait la différence. Ouais. Hein, il faut pas se leurrer.
Alexandre Pedro, là, vous, de ce qui va se passer cette année lors de ces étapes de montagne, vous les percevez comment ?
Nous, dans Pédale, on a essayé de réhabiliter la plaine, parce que la plaine est souvent la mal aimée, et il y a une phrase qui est souvent dite par mes collègues qui aiment peu le vélo, les supporters du mois de juillet, c'est quand est-ce que c'est la montagne, quand la montagne commence, et je leur dis, non, mais il y a des super étapes avant, il y a des pavés, il y a des bordures, il y a du vent, il y a des sprints, donc voilà, on a essayé dans le dernier numéro de réhabiliter un petit peu la plaine, qui ces dernières années a d'ailleurs été très intéressante, et parfois... Par exemple, Froome, l'an dernier, a fait plus de différence sur des étapes de plaine en descente qu'en montagne. Et donc cette année, il y a des plaisirs assez variés, puisqu'il y a les 5 massifs, notamment la planche des Belles-Filles, notamment dès la 5e étape. Et souvent, on se rend compte que sur des étapes de moyenne montagne, avec des cols un peu plus nerveux, plus courts, plus raides, ça crée des schémas de course différents, moins... Les équipes sont moins sur leur schéma habituel. Donc c'est ce que je pense que le Tour a essayé avec ces nouveaux massifs.
Question à bord.
Je crois aussi qu'il y a sans doute la volonté de permettre enfin à un grimpeur de faire la différence, car le Tour, c'est toujours le vainqueur, c'est généralement un coureur complet, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois roule, à la fois descend aussi, limite la casse en montagne, et généralement sur le contre-la-montre, il fera la différence sur le pur grimpeur. Or, il faut espérer qu'avec 5 massifs, les coureurs à la Quintana pourront donner du fil à retordre à la Sky et à Froome. Maintenant, faut-il qu'ils se comportent, ces purs grimpeurs, qui se comportent aussi à la façon
de... Ils sont pas perdus un peu de leur panache. Moi, je trouve qu'un Quintana, pour moi, c'est une sorte d'épicier de colombien, un petit peu.
Oui, c'est
quelqu'un qui dégage pas grand-chose, qui est toujours dans le jour d'après.
C'est un épicier qui a un talent fou. Ouais. Mais je veux dire par là que il faudra que le grimpeur redevienne aerobique. Voilà la différence. Je veux dire, aujourd'hui, le grimpeur a... Le grimpeur aujourd'hui a un petit peu tendance à attaquer dans le dernier col, si ce n'est dans le dernier tiers du dernier col. Lorsqu'on regarde Robic en 47, dans l'étape Luchon-Pau, il attaque dès le premier col. C'est-à-dire qu'il va franchir seul en tête le Peyresourde, l'Aspin, le Tourmalet, l'Aubisque. Je rappelle qu'au départ à Luchon, il a 21 minutes de retard au classement général sur le maillot jaune de Vietto. À l'arrivée à Pau, tout seul, il lui reprend 15 minutes. Donc c'est ça, je veux dire que s'il y a 5 massifs, on peut espérer qu'un grimpeur, mais faut-il qu'il y ait un Robic, faut-il qu'il y ait un Pantani.
C'est tout à fait un autre cyclisme, le cyclisme de ces dernières années. C'est d'ailleurs la grande difficulté des organisateurs, c'est de trouver un profil qui puisse faire des différences. Aujourd'hui, même dans les classiques de toute l'année, les différences se font vraiment à la fin. Il y a beaucoup moins de spectacles qu'il y en avait avant, beaucoup moins de coups de moins bien ou donc c'est très difficile parce que les tours se gagnent maintenant avec quelques secondes ou une minute ou deux de différence. Donc on a beaucoup de mal à créer un parcours qui fasse la différence aujourd'hui.
Il y a aussi une chose qui bride le coureur, hein, ce sont les oreillettes. Les fameuses oreillettes qui faussent la course. Il n'y a plus d'inspiration, on ne part plus parce qu'on sent que c'est le moment propice de partir. On attend.
Je savais même pas qu'il y avait des oreillettes.
Des oreillettes. On est en relation totale avec son directeur sportif qui vous intime l'ordre soit de rouler, soit d'attendre. On ne roule plus à l'inspiration.
Il y a pire que ça. Pour moi, le pire, c'est le capteur de puissance. En fait, le coureur a son rythme cardiaque et un Chris Froome, c'est pour ça qu'il est tout le temps la tête dans le guidon, c'est qu'il regarde son capteur de puissance. Et donc, il sait qu'il ne peut pas aller au-delà d'une certaine puissance. Donc, beaucoup de... Par exemple, Tom Dumoulin, qui a gagné le Giro, un rouleur néerlandais, il a grimpé comme ça, en regardant son capteur de puissance pendant tout l'école. Et il y a plus trop de coureurs. Un Thibaut Pinot est un petit peu plus instinctif, mais la plupart sont vraiment des... ils sont le nez
robotisés.
Un petit peu robotisés.
Non, mais enfin, il y a quand même des tempéraments. Je crois que la différence, c'est le tempérament.
Eh bien, on parlera du tempérament tout à l'heure, parce que moi, je n'ai pas d'oreillette, mais je vois un réalisateur qui, et je vois dans ses yeux un mot. Musique. Et vu les difficultés du Tour de France, un seul mot s'impose. Ouh là là ! C'est le titre de l'album de Junior qui a rythmé notre année. Allez, une dernière fois dans le MRV.
Insatisfaite, caustique et volatile. Des idées noires dans la tête, cynique et style.
François Rhin, en principe, si le programme est respecté, les coureurs ont commencé l'ascension du Tourmalet. Où vont la commencer?
Oui, écoutez, nous sommes à 10 km exactement du sommet de cette première difficulté naturelle de la journée, le Tourmalet. Vous signalez également, Gérard, que la direction du Tour aujourd'hui a pris des dispositions tout à fait révolutionnaires. Aujourd'hui, ainsi, un hélicoptère avec à son bord un commissaire international survole actuellement le peloton. Aucune poussette, vous l'avez compris, aucune tricherie de la part des coureurs ne pourra donc échapper à ces commissaires internationaux.
Ça, c'était le 11 juillet 1989 au col du Tourmalet avec vous, Jean-François Rhin. Tous en danseuse ce soir pour le Tour de France 2017. Vous vous souvenez de cette...
Oui, tout à fait. Les tontons Macoute, comme on les appelait dans le peloton. Il y avait des commissaires sur les motos, bien évidemment, pour être au plus près du peloton, pour surveiller s'il n'y avait pas des poussettes, des rétro-poussettes, comme l'on disait. Et puis, avec l'hélicoptère, on survolait le peloton. Alors, l'hélicoptère, c'est pas la panacée non plus, hein, parce que l'hélicoptère peut fausser la course dans la mesure où les coureurs... qui ont déjà les oreillettes, qui discutent déjà avec leur directeur sportif, ont en plus le bruit de l'hélicoptère. On n'entend plus le crissement des pneus, des freins. Hein, c'est hyper dangereux.
C'est quoi les poussettes ?
Ah ben les poussettes, un coéquipier peut très bien essayer de pousser son leader dans une monde.
Ça c'est arrivé.
Moi, les spectateurs également.
Vous avez fait de la poussette?
J'ai fait une poussette dans la montée du plat d'Adé. J'attendais Raymond Poulidor. Et j'entends à la radio qu'il n'est pas bien dans le Tourmalet. Bon, il vient de passer le Tourmalet et il arrive devant moi. Là, je le vois en contrebas et évidemment, je crie son nom et je l'applaudis. Et là, Raymond, arrivant à ma hauteur, me dit « pousse ». Et alors, j'ai mis ma main sous la selle de Raymond et je l'ai poussé. J'ai couru et je l'ai lancé comme on lançait le poids à l'école. Vous voyez, tac. J'étais tout content là, d'avoir poussé Raymond et je redescends à pied en marchant comme ça. Et le coureur qui était avec Raymond, que je n'avais pas pu pousser, lui, m'a mis une baffe. Ah, mais je n'y pouvais rien. Et le lendemain, j'ai vu dans l'équipe que Raymond Poulidor avait une amende pour poussette sollicitée.
Et beaucoup, oui.
Et je peux vous dire que la poussette, ça aide. Hein. Je l'ai testé. Parce
vous
que
aussi, vous avez poussé.
Non, je me suis fait pousser. À la belle époque.
C'est génial, ce sport.
À l'époque bénie, on avait le droit, l'autorisation de rouler avec les coureurs pendant la journée de repos. Et bien, un jour, je suis parti avec Jean-René Bernodeau, du haut de l'Alpe d'Huez. On est descendu. J'avais tellement peur, je freinais tellement. Que mon boyau a explosé, hein, voilà, je suis remonté, les deux derniers kilomètres de l'Alpe d'Huez, impossible d'avancer, j'étais en équilibre, je ne montais plus, je ne descendais plus, Jean-René m'a mis, passez-moi l'expression, la main au cul, et il m'a permis voilà. D'accéder au sommet de l'Alpe d'Huez.
Une bonne poussette.
Génial.
Génial.
Benoît Emmermann, vous, des poussettes vous
avez... Non, pas spécialement. Non.
C'est triste, un Tour de France en poussette, hein, franchement. Et de votre côté non plus.
Sur le canapé, c'est compliqué.
Jamais sur le tour?
Non, moi je suis un pour enfant de la télé. Premier Tour de France en 89 sur Antenne 2 avec Patrick Chêne aux commentaires. Et puis moi aussi les voix de Jean-François Rhin, Jean-Paul Brouchon sur France Info, parce que l'étape commence à 14h et avant, il y avait que les flashs de France Info à 8h38. Et pour savoir où on était la course, moi j'écoutais ça sur ma radio, puis après à 14h devant la télé.
Qu'est-ce qui fait un bon commentateur justement, oui?
Il faudrait demander, mais... C'est très important le commentateur parce que le vélo ça dure longtemps, ça dure 3-4 heures, on comprend pas toujours ce qui se passe et le rôle du commentateur pour moi dans le vélo il est beaucoup plus important que dans le foot où finalement on voit.
Et dans le vélo, sauf à la radio on voit pas.
Et dans le vélo il y a beaucoup de choses qui sont non dites lors de la tactique, lors de des arrangements.
C'est le fondement même du Tour de France.
Voilà, c'est le non dit.
Si le Tour de France était devenu une légende, c'est que précisément. Pendant des années et des années, on ne voyait pas ce qui s'y passait. Et donc les journalistes qui étaient sur place brodait l'histoire ou écrivait la légende. La plus grande anecdote qu'on donne toujours, c'est le premier Tour de France, la première étape. Géo Lefebvre, qui est l'un des co-inventeurs du Tour de France avec Henri Desgranges, est dépêché pour rendre compte de la première étape qui fait Paris-Lyon. Et lui, il prend le train, évidemment, pour y aller. Et son train arrive après les coureurs. Et donc, quand il arrive, il demande le classement. Et on lui donne le classement. Et à partir de là, il brode son article pour son journal pour le lendemain. Alors qu'il n'a rien vu, il n'a strictement rien vu. Donc c'est comme Liberty Valence, on écrit ce que l'on veut en fonction de la légende.
Ah, tu n'as rien vu à Hiroshima. Oui, Jean-François Rhin.
Il y a des jours où on ne voit rien, forcément. Hein. Vous n'êtes pas toujours dans le peloton. Les règlements également ont changé. Maintenant, il y a un sas de sécurité. Bon, il fut une époque où effectivement, on était à côté des coureurs, on les connaissait, on grimpait avec eux. En fait, on souffrait avec eux, on descendait avec eux hein. Sur la moto émettrice. Lorsque vous êtes dépassé et que vous roulez à 90 km/h de moyenne et vous êtes dépassé par un type sur un petit vélo qui pèse pas plus de 8-9 kilos avec des boyaux de 3 cm de diamètre, bon vous dites chapeau mec, hein, que tu sois dopé ou pas, voilà.
Hein, à quel moment ça a changé? À quel moment il y a eu véritablement un changement dans
la télévision?
C'est la télévision.
C'est la télévision qui a tout changé. La télévision au début elle ne rendait compte que des 10 ou 15 derniers kilomètres.
Ouais.
Et là déjà le peloton s'affolait complètement puisqu'il fallait montrer son maillot, il fallait être sur le devant de la scène pour exposer la marque qu'on défendait et ça a commencé à changer la course quoi. C'est évident et plus la télévision était présente, plus la course a changé, la manière de s'organiser a changé.
Christian Laborde.
Alors moi je dirais deux choses, d'abord pour la radio, c'est d'abord le jingle parce que le Tour de France l'après-midi c'est la sieste. Et dans la sieste, il y a le bruit de la mouche zzz, qui passe. Hein. Et tout à coup, il y a à vous la roue du tour, à vous Jean-Paul Brouchon. Et là, mon père, il ouvre un œil. Et là, il attend que Raymond démarre. Il a attendu 10 ans. Hein. Il a attendu 10 ans. Et puis finalement, il a démarré dans le plat d'Adé. Raymond Poulidor. Donc il y a la magie de la voix, le jingle, la voix qui passe dans l'après-midi, écrasée de canicule. Ensuite, je crois aussi qu'il y a une magie de l'image. parce qu'il ne faudrait pas penser que la télévision a écrasé ou affadi le tour. Et je ne voudrais pas que l'on puisse penser qu'il y ait par exemple des tours de la couleur qui seraient les tours du passé et qu'aujourd'hui il y aurait des tours un petit peu de la fadeur. Je veux dire, il y a des images somptueuses. Je veux dire, la montée de la pierre Saint-Martin par Froome, c'est un sacré spectacle. Je veux dire, Froome à pied qui monte le Ventoux, il privé de son vélo, c'est une image énorme. Je prendrai aussi l'image de Lance Armstrong traversant, évitant la chute, coupant à travers champs, reprenant sa place dans le peloton et d'ailleurs gagnant le Tour. Je veux dire qu'il y a encore aujourd'hui une beauté du Tour liée à la beauté des champions. Et enfin, moi qui aime beaucoup le style, je regarde les images d'Enduren et je me dis il faut écrire comme Miguel Enduren pédale.
Dans l'éditorial de Pédale, Alexandre Pedro, vous écrivez que ce que vous aimez voir sur le Tour, c'est un cyclisme de guérilla opposé au cyclisme de politesse.
Oui, c'était par rapport au dernier Giro où justement le leader de la course, Tom Dumoulin, avait eu un problème gastrique, qui s'était arrêté pour faire un buzz naturel derrière un panneau de signalisation. Et devant, c'est
derrière, on n'est pas tellement protégé derrière. Voilà,
c'est un peu en pleine. Voilà, c'était compliqué pour lui. Et devant, ses adversaires l'ont pas attaqué, une sorte de trêve. Et parce que la veille, Quintana était tombé et Dumoulin l'avait attendu. Alors à partir de là, on attend tout le monde. La veille, un coureur. Après que sa maman était malade, on l'attaque pas. Il a mal dormi, on l'attaque pas. Ce que je disais, c'est par exemple que Ocaña avait appelé son chien Merckx pour ne jamais oublier, pour lui donner des ordres, pour qu'il soit à ses pieds. Et finalement,
pour lui dire Merckx au pied.
Merckx au pied. Anctil et Poulidor se sont détestés sur un vélo. Et à la fin, ils étaient les meilleurs amis du monde. Il y a toute une après-carrière pour se réconcilier. Moi, j'aime bien l'idée de l'adversité dans le sport. J'aime pas, par exemple, après un match de foot, les joueurs se tombent dans les bras. J'aime bien qu'il y ait un peu de défiance.
Vous êtes tous d'accord avec cette version belliqueuse et
s'agissant de la... Pardon.
Oui, qui est une vraie rivalité, je trouve ça formidable. Ça fonde le sport. Borg-McEnroe, la boxe, etc. La rivalité, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Pour revenir sur le spectacle du Tour de France tout de même, d'abord, la moyenne d'âge des téléspectateurs ne cesse d'augmenter. Il faut tout de même être lucide. Les jeunes ne s'accrochent pas forcément au cyclisme à l'heure actuelle. C'est tout de même un sport qui vieillit beaucoup, et on s'endort tout de même sur pas mal d'étapes. La sieste dont parlait notre ami Laborde, elle existe encore. On peut s'endormir devant une étape du Tour de France qui nous montre quoi ? Qui nous montre une course souvent insipide, soyons tout de même un peu lucides, et qui nous montre beaucoup de châteaux,
On
visite la France, qui est formidable.
C'est un côté secret d'histoire. Oui.
C'est formidable, et puis surtout pour les téléspectateurs étrangers, puisque c'est un spectacle qui est retransmis dans 120 pays. Donc quand on est au Qatar, en Australie, etc., on est content de voir la France de cette manière-là. Mais c'est tout de même un cyclisme qui a changé. C'est un cyclisme, effectivement, tout de même un peu aseptisé et de politesse, comme vous
surtout sur les grands tours. Je trouve que les classiques gardent un peu de cette sauvagerie. Et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu la France vue du ciel. On a un peu folklorisé le Tour de France, et je le regrette un petit peu.
Mais dans le même ordre d'idées, Bernard Tapie, quand il est arrivé dans le cyclisme, avait essayé de provoquer au sein même de son équipe la vie claire. Il cherchait à avoir le marché nord-américain. Il fait venir Greg LeMond et il oppose au sein de sa propre équipe Bernard Hinault, le tenant du titre, à Greg LeMond. Ça faisait notre bonheur. On allait voir le Ricain, on lui disait, tu sais, Hinault a dit ça, te concernant, l'autre, il montait, voilà, et hop, on allait voir LeMond.
Un sport de guérilla et pas un sport de politesse. Et de votre côté?
Oui, je me souviens puisqu'on parlait des soucis gastriques, je me souviens de la post-pipi de Charlie Gaulle dans le Tour d'Italie, c'était en 57, je pense, et 57. Alors, ouais. Et Charlie Gaulle s'arrête pour uriner, et l'équipe de France en profite pour attaquer. Ce qui s'appelle, à mon avis, un manque de classe. Mais bon, enfin, ils attaquent Charlie Gaulle, et ils l'ont surnommé, du coup, ils l'ont surnommé Chéri Pipi.
C'est excellent.
Excellent, oui. Et simplement, il a été voir l'équipe de France, il a dit à Bobé, très bien, tu m'as attaqué pendant que je pissais. Tu perdras le tour. Et Charlie Gaulle, qui était le meilleur grimpeur de l'histoire du vélo avec Bahamontes, s'est mis au service de Nencini. Il a aidé Nencini en montagne et Bobé a perdu le Tour d'Italie. Donc il y a eu le. Moi j'aime bien le côté OK Corral, mais je pense qu'il y a sûrement d'autres moments qu'un arrêt pipi pour montrer sa classe.
Tout de suite, un arrêt plus de pipi, on a fait pour montrer notre classe. 23h45 sur France Inter.
Il a de la chance, c'est qu'il l'a trouvé. Il le partagera en concert. Ce sera au Fnac Live à Paris le 7 juillet.
Monsieur le coureur, avancez sur la ligne, s'il vous plaît.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Attention, monsieur le coureur, prêt pour le départ ?
Sur France Inter.
Le départ du Tour de France, c'est ce soir dans le NRV. Oui, ça sera samedi. En Allemagne, mais ce soir, c'est dans le plateau de France Inter. On s'est quitté sur une histoire de pause pipi de Charlie Gaulle. Vous vouliez continuer sur le sujet, Jean-François Rhin, vous, l'ex-grande voix du Tour de France pour Radio France.
Oui, pour vous dire que pendant des années, sur le Tour de France, la femme journaliste n'avait pas droit de citer, et pour cause, parce que les coureurs, comme on l'a dit, bien, satisfaisaient leurs besoins au bord de la route, etc. Donc il n'était pas question pour la direction du Tour d'avoir dans les voitures de presse une dame. Bon, les règlements ont changé.
J'imagine, ouais, quand même.
Les coureurs, bien souvent, font leurs petits besoins sur leur vélo. Hein. Quand la course est lancée, on ne s'arrête plus. Hein. Le peloton n'attend pas. Hein. Et je vais vous dire, pour le suiveur, c'est la même chose. Le suiveur que j'étais sur ma moto, il y a un moment où on est obligé de s'arrêter. Hein. Qu'est-ce que vous faites ? Ça m'est arrivé. Je m'arrête avec mon ami Bernard Quentin, qui était le pilote, le célèbre pilote de la moto électrique.
Vous dormiez sur son épaule.
Je dormais sur son épaule quand tout allait mal. Il disait, dors petit, ça va aller, tu vas te reposer un petit peu. C'est dire l'osmose entre le pilote technicien, parce que c'était pas qu'un pilote, hein. Il était technicien, ouais. Il avait des petits boutons, il avait trois retours d'antenne dans les oreilles, hein, fallait être là. Hein. Et là, on s'arrête au bord de la route, à côté de deux, trois personnes, on satisfait un petit besoin tout naturel, et là, on entend Jean-François Rhin sur la route du Tour. Je me précipite, évidemment, le casque sur les oreilles, le micro, et je commence à parler, voilà. Je dis à Quentin, tu mets un petit peu de... Hein, tu fais... Et les gens, ils étaient morts de rire. Mais enfin, c'est ça le métier aussi. Hein.
Pour vous, Christian Laborde, les coureurs ne sont pas des champions, c'est plus des héros. Et vous dites même que le Tour, c'est pas du sport, finalement. C'est de l'épopée. Oui. C'est quand même du sport.
Oui, enfin, je fais une différence entre le sport. Pour moi, le sport, il est fait par des champions, effectivement.
Il y en a dans le Tour de France. Hein.
Tour de France, ce sont des héros. D'ailleurs, on parle de héros du Tour. Hein, on dit les héros du Tour. Et je pense qu'effectivement, ce sont des héros. C'est-à-dire, je prends le sens au sens romanesque du terme, comme des héros de roman. Et puis, c'est aussi ce sont des héros au sens grec du terme. C'est-à-dire, ce sont des demi-dieux. Il y a les hommes, il y a les demi-dieux. Et il y a les dieux. Et le demi-dieu est un dieu, n'est pas un dieu. Il a une part d'ombre, il est imparfait. Et je vais donner un exemple en quoi ce sont des demi-dieux. Je vais prendre Anquetil, par exemple. Eh bien, nous vivons tous sous la règle de l'horloge, avec son tic-tac cruel.
Surtout ici.
Qui nous annonce, je comprends.
Ils sont en train de regarder.
Qui nous annonce que nous allons mourir. Eh bien, oui, c'est la cruauté de l'horloge. Et quand Jacques Anquetil écrase un chrono, les horloges ont moins d'arrogance. Et c'est là qu'il devient un héros. Il nous débarrasse le temps d'un exploit, de la peur de mourir. Voilà le statut du héros.
Jean-François, ce sont véritablement les jeux du cirque. Hein. Alors, je ne sais plus qui disait, j'avais retenu la phrase du Tour de France, c'est notre Iliade, c'est notre Odyssée, c'est notre chanson de Roland. C'est tout à fait
c'est
ça.
C'est du lyrisme. L'Iliade, c'est pas les jeux du cirque. C'est autre chose. C'est l'épopée. C'est l'Iliade et l'Odyssée.
Alexandre, peut-être que vous allez mettre un peu moins de lyrisme, j'imagine.
Moins sur l'héroïsme. Ce qui nous intéresse en pédale, c'est sur.
De pédale.
C'est beaucoup la dimension humaine. Et c'est un sport qui charrie un nombre de drames hallucinants. Juste dans la génération des années 90-2000, il y a eu Pantani qui est mort d'une façon. Rimini, José Maria Jiménez, un grimpeur espagnol qui est mort en hôpital psychiatrique, il y a Philippe Gaumont qui est mort à 40 ans d'une crise cardiaque. Il y a plein d'histoires. Frank Vandenbroek qui était le nouveau Merckx, qui est mort au Sénégal dans les bras d'une prostituée. Je sais pas pourquoi le vélo produit autant de drames, peut-être parce qu'ils vont très loin dans la douleur. Peut-être qu'ils vont.
Mais je pense que c'est la raison. C'est épique. C'est épique et c'est lyrique. Et je crois que Pantani est mort d'overdose comme Janis Joplin. C'est un rocker, Pantani.
On les sacrifie un peu. Ils sont sacrifiés.
C'est sûr que l'héroïsme a toujours existé. D'abord, il y a ce fameux décor qui n'existe dans aucun sport, puisque vous jouez avec la montagne, l'altitude,
les éléments,
etc. Donc ça joue énormément. Et effectivement, mais le Tour de France est basé justement là-dessus. On est sur une nostalgie. Or, dans nostalgie, étymologiquement, aljos, c'est la douleur. C'est le retour sur la douleur, quoi. On est tout le temps dans cette dimension-là en ce qui concerne le Tour de France. Alors, on trouvera des héros dans d'autres sports. N'exagérons pas le mot non plus. Mais c'est vrai que le décor, le côté feuilleton surtout, qui était très important sur 3 semaines. C'est-à-dire, ça a été basé comme ça dans la presse à l'époque. C'est que tous les jours, on retrouve cette histoire de feuilleton. Donc, ça donne une dimension un peu particulière.
La douleur du héros, hein, du premier de la classe, mais aussi la douleur de la lanterne rouge, hein, parce que on ovationne le premier, mais on oublie que le dernier a fait le même nombre de kilomètres et a peut-être souffert davantage que le premier.
Le public du Tour ne l'oublie pas, parce que la lanterne rouge, par définition, fait aussi de la lumière. Mais je voudrais dire sur héros, je vais prendre un exemple pour dire qu'on est vraiment dans un autre espace. On va prendre René Vietto. Bon, René Vietto, en 34. Il est un jeune grimpeur fabuleux et il se sacrifie pour son leader, donc Antonin Magne, et il lui passe sa roue, on connaît l'histoire, dans les Pyrénées, et donc Antonin Magne gagne le Tour. Eh bien, et Antonin Magne a écrit une lettre de remerciement à Vietto. Quand Vietto est mort, on a consulté son testament. Dans le testament, il était marqué ceci. « Vous allumerez le foyer qui me brûlera » avec la lettre que m'a écrite Antonin Magne. Et vous répandrez mes cendres sur le premier col que j'ai grimpé, le col de Bro, ou de Brosse, je ne sais pas si on prononce le S. Eh bien donc, on a allumé le feu avec la, comment dire, avec la lettre d'Antonin Magne. Et un jour, quelques jours après la crémation, on a vu le fils de Vietto monter le col de Brosse sur son vélo. Il avait son bidon. Il arrive au sommet du col. Il sort son bidon. Il enlève le bouchon. Il le vide sur le col. C'était les cendres de son père, René Vietto. Je n'ai jamais vu d'histoire de ce style dans le foot. Je n'en ai vu que dans la boxe, lorsque les Blacks ont promené le cercueil de Ray Sugar Robinson dans Harlem et l'ont dressé contre tous les bars et ont bu à sa santé. Donc, boxe et vélo, c'est vraiment à part.
Eh bien, merci à tous. Ce sera le mot de la fin. Merci Jean-François Rhin. Merci Christian Laborde. Robic 47 vient de paraître aux éditions du Rocher. Benoît Emmermann, le marquis des stades. C'est au Castor Astral. Et puis, je rappelle Alexandre Pedro que Pédale, sous-titré Tous en danseuse. Vraiment formidable, les titres. Est disponible en kiosque. Et j'ajoute aussi le beau livre de Pédale. Ouais, le titre moins intéressant, La grande aventure du vélo. Mais c'est bien, c'est chez
On est un peu facile.
Et pour se quitter, un moment de spleen. Love Song de The Cure dans le NRV. De The Cure en 89, l'album s'appelait Désintégration et c'est ce qui va nous arriver demain, une programmation in extremis de Jean-Baptiste Audibert. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était signée Stéphane Leguenec et Elsa Béranger. Préparation Virginie Rosic, Benoît Lagan, Corinne Valente et Marie Mougin. Demain, on se retrouve 22h minuit avec ça.
Bonjour. Je n'ai pas pris rendez-vous, mais je me ferai bien une petite demi-heure du V. Si la cabine est libre.
Oui, c'est possible, il n'y a personne avant 18h.
Ne vous dérangez pas, je connais la procédure.
18h non, 22h pour le dernier énervé de la saison au programme Harley, BD et Rock avec Franck Margerin et Quint. Dans le énervé la suite, on refait l'année, on nettoie le studio avant de filer les clés. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain.